pourtant ce qui se cache derrière cette petite phrase que nous prononçons de nombreuses fois dans une journée, quelle heure est-il?
Au quatrième top, il sera exactement...
midi et des poussières. Midi et des poussières.
Un rendez-vous presque quotidien sur Radio Barthas.
Des invités, des reportages, des chroniques, de la musique. Une heure d'émission pour raconter ce qu'il se passe ici et un peu plus loin.
Midi et des poussières.
En réalité, pour être tout à fait précis, actuellement c'est le temps atomique, moins 10 secondes, plus une heure.
Et bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien à l'écoute de Radio Barthas, il est très exactement midi et des poussières, l'heure de ce rendez-vous consacré aux actualités et aux paroles locales. Et ça y est, la diffusion FM de Radio Barthas a repris, enfin les techniciens sont montés sur le Cosmégen ce matin pour réparer le problème qui venait de notre émetteur. On s'excuse encore pour l'interruption de ces derniers jours, mais voilà, tout va bien. Et aujourd'hui dans cette émission, nous allons parler de soie, de sériciculture, de verre à soie, de filature, de magnanerie, des mots qui résonnent peut-être avec les Cévennes du passé, qu'on associe souvent au passé, alors que c'est une histoire qui continue de s'écrire au présent. Il y a comme un renouveau en ce moment de la filière soie en Cévennes. Et pour en parler, je suis avec vous, Jean-Pierre, Marie et Evelyne Dussault. Bonjour.
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 Alors Jean-Pierre, Marie, tu es le président de l'association Chemin de la soie des Cévennes aux Alpes-Jarras. Et Evelyne, tu es directrice de projet pour cette même association.
Exactement.
Bienvenue à tous les deux. Alors votre association, elle est née en 2019 avec pour objectif de faire revivre la mémoire des chemins de la soie pour mettre en valeur le patrimoine culturel, géographique, historique et humain des Cévennes. Alors quels sont ces chemins de la soie et pourquoi est-ce que vous avez tenu à faire revivre leur mémoire ?
Alors en fait, on s'est aperçu qu'il y avait plusieurs chemins de randonnée qui étaient vraiment très jolis, mais qui étaient de moins en moins fréquentés parce que justement, il n'y avait pas d'association dynamique et une histoire. Donc en fait, il s'agit du GR7 qui part de Bar des Cévennes jusqu'aux Alpujarras au sud de l'Espagne. Il y a également le GR67 qui est le tour du pays cévenol et le GR6 qui part de Beaucaire jusqu'à, qui rejoint Mérues.
Donc c'est à travers ces chemins aussi donc pour accompagner les randonneurs et leur permettre de découvrir ce patrimoine lié à la soie en Cévennes que vous avez lancé cette association.
C'est ça, parce que quand les randonneurs aiment randonner sur des chemins avec une histoire, et quand on regarde le paysage cévenol, en fait, avec toutes les magnaneries, les filatures, les bancelles, les mûriers, on s'aperçoit que c'était évident que le thème serait la soie.
Le thème, c'est la soie, mais finalement, votre travail, il va au-delà parce qu'il s'agit d'embrasser tout le patrimoine cévenol, finalement.
Bien sûr, oui. Bien sûr.
Et alors, pourquoi les Alpujarras ?
Alors ça, après, on passera la parole à Jean-Pierre, parce que justement, pourquoi les Alpujarras ? Parce que justement, suite à toutes les recherches, les années de recherche de Jean-Pierre, il s'est aperçu que la soie était arrivée par le sud de l'Espagne, dans le port d'Almeria. Donc... je ne sais pas si vous voulez qu'il intervienne maintenant pour dire un petit peu l'histoire de l'arrivée de la soie dans les Cévennes.
Bah merci beaucoup pour cette transition, c'est parfait. On va faire un petit bond en arrière pour se pencher un peu sur l'historique de la soie. Comment est-ce que la soie, et depuis quand est-ce que la soie est arrivée en Cévennes, Jean-Pierre ?
Alors, la soie arrive en Espagne avec les Arabes en 711. Non, en 640, pardon. En 640, l'émir qui est au pouvoir à Séville et qui vient de Syrie, et qui, en Syrie à cette époque, c'était, l'industrie de la soie était très développée. Donc il a l'idée d'amener en Espagne, à Séville, l'industrie de la soie. Donc il fait venir des artisans dans le port d'Almeria en 640.
Ça nous ramène loin en arrière.
Donc l'industrie de la soie se développe en Espagne à partir de cette époque-là. Et aux environs des années 750-800, une partie de la population espagnole d'origine wisigothe, puisque l'Espagne avait été envahie par les Wisigoths il y a très longtemps. Et à l'arrivée des Arabes, la majorité de cette population d'origine wisigothe se adoptent la langue arabe et la culture arabe. Mais ils gardent leur religion d'origine, c'est-à-dire l'arianisme. Mm-hmm. L'arianisme, c'est une religion proche du catholicisme, mais ils refusent le dogme catholique de la Trinité. Pour eux, Jésus-Christ est un homme, donc il ne peut pas être Dieu.
Ne nous égarons pas.
Non, mais c'est parce que c'est important dans l'histoire.
D'accord.
Et donc ces Visigoths, cette population d'origine Visigoth adopte la culture et la langue arabe et on les appelle à cette époque-là les Mozarabes. Aux alentours des années 800, ces Mozarabes entrent en conflit avec les Arabes. Mmh. Et petit à petit, ils commencent à immigrer. Alors, à l'intérieur de l'Espagne d'abord, et puis après, ils sont tellement nombreux qu'ils finissent par passer les Pyrénées.
Et se retrouvent en France, dans le sud de la France.
Ils vont se retrouver en France. C'est une émigration qui va durer jusqu'en 1200, c'est-à-dire longtemps, quoi, hein, 400 ans. Quoi.
Ouais, plusieurs
siècles. Donc ça fait du monde. Petit à petit, ça fait du monde. Et ils sont accueillis, ils sont bien accueillis, puisque c'est à cette époque que les seigneurs français sont en train de quitter leur château en bois. Et ils construisent des châteaux en pierre. Mmh. Et donc, ils ont besoin d'architectes, de maçons et d'hommes d'armes pour tenir les châteaux. Donc, cette émigration est la bienvenue. Donc, ils s'installent tout le long entre les Pyrénées et l'Auvergne, disons. Mais ce qui est le plus caractéristique en Auvergne, c'est la cathédrale du Puy-en-Velay. Où l'architecture de cette cathédrale est fortement marquée par...
les influences arabes.
Par les éléments architecturaux d'origine mozarabe. Et entre les Pyrénées et le Puy, donc, on trouve une multitude de chapelles et d'églises qui n'est pas repéré par les historiens qui ont écrit sur les chapelles romanes. Mais parmi les chapelles romanes, voilà, quand on connaît un peu les éléments d'origine mozarabe, on peut repérer, moi j'en ai repéré une centaine, enfin je n'ai pas tout visité, mais de chapelles et d'églises qui ont des éléments d'origine mozarabe. Par exemple, des arcs en forme de fer à cheval.
C'est passionnant, mais on s'éloigne un peu du fil de la soie, là, j'ai l'impression. Est-ce qu'on peut revenir peut-être ?
D'accord.
Donc, voilà, il y a eu cette émigration, donc, mozarabe, ils ont passé la frontière, ils arrivent dans le sud de la France.
Oui.
Il y a plein d'influences, comme vous commencez à l'expliquer, sur l'architecture. Et est-ce qu'ils ont mis dans leur bagage, justement, des verres à soie
soie ? Donc, le matériel et les verres à soie, c'est pas lourd à transporter. Donc, c'était tellement répandu en Espagne à l'époque que tout le monde travaillait un peu la soie. Donc, il n'y a rien d'écrit là-dessus. Et les historiens, j'ai pas réussi à trouver un seul livre sur cette histoire. Mmh. C'est simplement en faisant des recoupements. Hein. L'idée, c'est de... On suppose que...
Ils ont amené la culture du verre à soie jusqu'en...
Ils avaient dans leur bagage.
Voilà. Et ça s'est très bien implanté ici.
Alors,
jusqu'à...
La première trace de soie dans les Cévennes, c'est en 1234, dans le port de Marseille. Un navire charge des ballots sur lequel il y a mentionné « ballots de soie des Cévennes ». La deuxième...
Apparition,
c'est à Anduze. Dans les archives d'un notaire, qu'on peut encore voir, il est question d'un trahandier. Et le trahandier, c'est un métier très spécialisé. C'est celui qui tire le fil de soie à partir du cocon.
Ah oui, c'est extrêmement spécialisé en effet. Et donc ça s'est développé ici en Cévennes jusqu'au véritable âge d'or de cette industrie au 18e et au 19e siècle. Oui. On parlait alors de l'or blanc des Cévennes pour parler de la soie. Et donc à cette époque-là, c'était la soie des Cévennes s'exportait un peu partout jusque sur les colons de Louis XIV.
Ah oui, ça...
C'est ça. Et en fait, il faut aussi parler de l'importance que ça représentait économiquement ici en Cévennes, sur un territoire pauvre. Et en fait, chaque famille, ou presque, élevait des vers à soie. Et ça lui permettait d'avoir un surplus de revenus. Ouais. Voilà, ça, c'est très important aussi. Ah, oui. C'est pour ça que ça s'est beaucoup développé, peut-être aussi, parce qu'il y avait, c'était difficile de cultiver ici.
Oui.
Donc la soie permettait d'apporter des revenus aux familles.
Non, oui. La culture ici, elle nourrissait les gens simplement quand il n'y avait pas de possibilité d'exportation.
Pas d'excédent,
quoi,
ouais.
Mais et donc la soie, ça rapportait, quoi.
Et donc ça s'est développé jusqu'à bien sûr un déclin. Je vous propose d'écouter un petit extrait d'un film documentaire qui s'appelle Renouer le fil de la soie, qui a été réalisé par Myriam Lay en 2023.
Pendant 200 ans, la production de soie cévenole va dominer le monde grâce à la réputation internationale de ses bas. Des bas de soie d'abord portés par des hommes dans les cours royales et impériales, avant de devenir la quintessence du féminin. En 1946, l'invention du nylon raye de la carte le bas de soie des Cévennes. Disparues les filatures le long des rivières, perdue cette source de revenus essentielle, la soie est refoulée dans les mémoires.
Alors, est-ce que c'est vraiment la faute au bas nylon s'il y a eu un tel déclin de la soie dans les Cévennes, Jean-Pierre Marie ?
On ne peut pas dire que ce soit vraiment la faute au bas nylon, ça a participé. Mais c'est surtout l'ouverture du canal de Suez qui a posé qui a été un élément déterminant, puisque l'ouverture du canal de Suez a permis à... toute la soie chinoise et japonaise et tous les objets de soie chinois et japonais d'entrer en grande quantité en Europe.
Vous pouvez nous rappeler la date de l'ouverture du canal de Suez ?
1867.
Donc le déclin s'annonce, enfin voilà, prend sa source à ce moment-là parce ouais. qu'après ça devient, la concurrence est trop rude
et puis,
en fait.
Alors ça c'est le premier élément. Le deuxième élément c'est l'invention du nylon et de tous les fils
synthétiques.
Ouais. Tous les fils synthétiques qui viennent remplacer. Et il n'y a pas eu d'effort gouvernemental, national, fait pour soutenir cette industrie. Elle a un peu été laissée à l'abandon. Et...
Voilà, là, on n'a pas trop de détails, mais très peu en tous les cas. Et en 1967... ça n'intéressait pas du tout le gouvernement français, au point que tout le matériel qui restait sur la soie qui était stocké à Montpellier a été envoyé en Italie.
Oui, on s'en est vraiment débarrassé.
On s'en est débarrassé.
Et ça a eu des conséquences assez importantes sur les villages ici, sur les familles. J'ai quelques chiffres, par exemple, pour le village de Monoblé, dont on va reparler après, qui était un haut lieu de la sériciculture. Il a compté jusqu'à 1100 habitants et pas moins de 6 filatures dans les années 50. Voilà, à l'époque de l'apogée de la soie. Et dans les années 50, le village s'est vidé. Il restera plus que 500 habitants. Et les filatures ont fermé les unes après les autres jusqu'à la dernière qui a fermé en 1965. Mmh. Mais aujourd'hui, il y a un renouveau qui a lieu. Et ce renouveau, on peut le percevoir sur différents aspects. D'abord, un renouveau patrimonial. On pourrait dire, Evelyne, il y a un regain d'intérêt pour cette industrie. Sur le côté patrimonial, justement, et c'est un peu l'objet de votre association, le travail de votre association.
Et oui, en fait, par rapport à notre association, donc, comme on l'avait lancé en 2019, en 2022, on a été approché par le Conseil de l'Europe qui nous a donné son agrément pour faire partie du projet européen Arachné. Donc, en fait, le but de ce projet européen, c'était de construire la route européenne de la soie virtuelle, touristique et culturelle. Donc ça a impliqué 7 pays, dont la France, l'Italie, l'Espagne, la Slovénie, la Bulgarie, la Géorgie, la Grèce.
tous des pays de sériciculture.
Oui, très, très, très fortement. Et donc, le projet a commencé, il a été lancé à Padoue, en Italie, en 2023, le 6 et 7 février 2023. Et donc, il vient de se terminer en 2026. Et là, ça s'est terminé officiellement fin février 2026. Mais on a eu un rapport important en visio avec la Commission européenne pour faire le bilan de tout le projet. Donc ça a été vraiment très enrichissant pour nous, parce que nous, on est venus nous chercher comme étant spécialistes sur le terrain, parce que tous les autres partenaires étaient principalement des partenaires scientifiques qui étaient spécialisés dans la recherche génétique des mûriers. Donc on a participé également à l'étude des mûriers de la région. On faisait des prélèvements qu'on envoyait en Slovénie, en Italie, parce que le but ultime de ce projet Arachné, c'est non seulement la construction de la route européenne, mais c'est surtout la réintroduction de l'activité de la soie en Europe. Donc au fur et à mesure de tous ces prélèvements effectués par les différents partenaires, il y a eu des études génétiques qui ont été faites. Et de cette étude est sorti un rapport de plusieurs souches qui correspondent à chaque pays européen qui a participé au projet. Et les agriculteurs des pays européens qui ont participé au projet peuvent avoir accès à ces nouvelles souches de mûriers pour avoir la soie, la meilleure soie possible, en fait.
Et comment vous expliquez ce regain d'intérêt, là, même à l'échelle européenne, pour la filière ?
Ben, je pense qu'au départ, c'était la peur de la perte des savoir-faire traditionnels. Et surtout dans tous les pays, en fait, les savoir-faire traditionnels sont très importants. Et donc, ce projet a permis de relancer et de conserver les savoir-faire et puis les transmettre surtout, et faire un maillage entre tous les partenaires de la sériciculture.
Et donc, avec ce projet, il y a plusieurs ressources qui ont été créées, notamment un site internet qui recense...
Exactement. Donc, le site internet de l'Europe, c'est Arachne, Aracne.eu. /partners, mais bon, si vous mettez déjà arachne.eu, vous tombez sur le site officiel qui a été créé par le projet Arachne, sur lequel vous allez retrouver la route européenne de la soie. Donc nous, on était responsables de transmettre la méthodologie de comment on a créé un chemin de randonnée, comment il devient chemin culturel européen. Et donc sur cette carte virtuelle, on a recensé 234 sites séricicoles. Donc sur chaque site, il y a évidemment le nom du site, la photo, le texte de présentation qui est accessible dans toutes les langues de tous les pays européens. Ensuite, il y a eu un catalogue européen qui a été créé. Donc le catalogue européen qui se partage en deux parties. Une partie de la sériciculture de chaque pays partenaire. Et dans la deuxième partie, chaque pays a sélectionné 5 sites séricicoles de son pays pour les mettre en valeur. Donc nous, on a mis en valeur évidemment le musée Maison Rouge à Saint-Jean-du-Gard, le musée Charlieu dans la Loire, Soirée Vivante à Lyon, le musée vivant du Ver à Soie en Ardèche à la Gorse et le musée de Tolignan dans la Drôme. Voilà.
Voilà, donc c'est un projet européen qui crée cette route européenne de la soie pour constituer un véritable réseau vivant où patrimoine, innovation, tourisme durable et inclusion sociale convergent. Et donc voilà, ça concerne aussi l'industrie, hein, tu l'as dit Evelyne, donc c'est vraiment de relancer la filière.
Oui.
dans ce territoire. Et on assiste déjà à ce renouveau, notamment dans...
Complètement, du côté de Monoblé.
De Monoblé, justement.
Il y a 6 éleveurs, donc, de ver à soie, et qui demandent d'ailleurs si des petits jeunes veulent s'installer. Je pense que les éleveurs de Monoblé leur dérouleront le tapis rouge, parce qu'il y a vraiment un manque d'éleveurs, puisqu'il existe plusieurs sociétés, notamment l'Arsois Servin à Sumène, qui est spécialisée dans la fabrication de bas de soie. Et ils aimeraient pouvoir fournir tout leur carnet de commandes avec de la soie uniquement 100% Sévenol, ce qui n'est pas encore le cas, mais c'est leur but, parce que leur carnet de commandes, leur carnet croule sous les commandes. Et donc, on aimerait avoir plus d'éleveurs. Ensuite, vous avez les soieries des Cévennes, qui font des très belles robes de soie qui sont, vous pouvez voir, au musée de Saint-Hippolyte-du-Fort. Également... l'entreprise Sericine, qui, eux, ont développé un procédé très spécial, puisque les vers à soie ne tissent plus leur fil de soie à l'intérieur du cocon, mais au contraire, ils tissent directement sur des plaques de soie ou alors sur des formes qu'on leur propose, par exemple pour des luminaires. Et donc, ce qui est bien aussi pour le... Par exemple, pour le bien-être animal, puisque le cocon et le ver à soie n'est plus ébouillanté, mais il refait son stade normal. Et donc, voilà, c'est aussi...
De l'innovation.
Oui. Ouais. Et nous avons aussi, dans le cadre du projet européen, nous avons élaboré des manuels de sériciculture, des manuels éducatifs pour les scolaires. Donc, j'ai à disposition des manuels pour les CM2 et pour les collégiens, donc que j'ai traduit en français, puisqu'à l'origine, ils sont faits en anglais. Et chaque partenaire a traduit les deux brochures enfin, dans la langue de leur pays. Donc, s'il y a des instituteurs de la région qui nous écoutent, ils peuvent prendre contact avec moi. Je leur enverrai avec plaisir les livrets de sériciculture pour les enfants.
Je vous propose maintenant d'écouter quelques mots de Michel Costa, qui est sériciculteur à Monoblé. C'était dans un reportage qui a été réalisé par Télédry. C'était déjà il y a quelques années, c'était en février 2022. On écoute Michel Costa.
Il y a eu des tas de tentatives de relance qui ont plus ou moins échoué les unes après les autres, jusqu'à la disparition complète il y a quelques années de la dernière filature. Pas uniquement ici, mais pratiquement dans toute l'Europe, quoi. En Cévennes, il y a deux entreprises qui ont persisté, qui ont pas arrêté. C'est l'Arsoas Humaine et EOS à Monoblé. Et récemment, donc, il y a Sericine, qui est une nouvelle entreprise qui vient de s'installer il y a 5 ans à Monoblé et qui fait tout pour essayer de relancer l'activité sur la région. Donc, il existe encore 3 entreprises qui travaillent à la soie aujourd'hui. Donc, tout espoir n'est pas perdu. Donc, il y a encore des savoir-faire et la possibilité de redémarrer quelque chose dans ce domaine.
Voilà, et depuis 4 ans, on voit déjà qu'il y a eu une évolution et que ça a bien redémarré. Donc Michel Costa doit être content. Est-ce que c'est grâce justement à la persévérance des sériciculteurs qu'il évoque que la filière a pu être maintenue et que ça a persisté ? Parce que tout aurait pu complètement disparaître, mais il y a des personnes qui se sont accrochées, qui n'ont pas lâché. Et aujourd'hui, il y a un véritable renouveau. C'est grâce à ces personnes-là.
Ah mais indéniablement, Michel Costa a toujours été dans la sériciculture depuis le départ. Et c'est vrai que c'est grâce à ces personnes-là qui ont vraiment, malgré les difficultés de relance, qui à chaque fois étaient un petit... n'aboutissaient pas, en fait.
Seulement ça n'aboutissait pas, mais il était largement moqué par l'environnement, quoi, hein, en plus.
Oui, il n'était vraiment pas soutenu dans sa démarche.
Non.
Il a essayé plusieurs fois de relancer la filière, trois fois.
Et là, il a remonté une filature et il a planté 18 000 mûriers. Donc, et puis bon, il participe vraiment, je veux dire, au renouveau de la sériciculture, sans aucun doute. Et nous, dans le cadre du projet européen, on a participé au grand colloque international en Géorgie. Donc, avec, par exemple, tous les pays qui participaient au projet Arachné, mais également tous les pays du Baksa, c'est-à-dire tous les pays du Caucase, notamment les pays de la mer Noire et de la mer Caspienne. Donc, c'était vraiment très enrichissant. Et malgré le fait qu'officiellement, le projet Arachné soit terminé, il n'est pas vraiment terminé dans le sens où chaque partenaire s'est mis d'accord pour vraiment continuer le maillage entre nous et de se tenir au courant de l'évolution de tous les progrès et de l'avancement de la sériciculture dans chaque pays.
Et on pourra retrouver votre association très bientôt. Vous allez faire une intervention dans le cadre d'un événement Total Festum soutenu par la région Occitanie le 27 juin.
C'est ça, le 27 juin à l'espace Georges Brun à Saint-Privat-des-Vieux. Donc, nous participons à la présentation de la sériciculture, que ce soit passé et le renouveau, et ainsi également présenter le projet européen en plus de détails.
Sous forme de PowerPoint.
Sous forme de PowerPoint, parce que là, on n'est qu'à la radio, on n'a pas les visuels.
Voilà,
j'imagine
donc,
qu'il y a
il y aura non seulement le son, mais il y aura les images en même temps.
Et j'imagine qu'il y a des belles photos pour découvrir aussi tout le patrimoine dans les autres pays européens qui ont
participé. C'était magnifique. Franchement, nous, c'était beaucoup de travail, beaucoup de stress, parce que c'est vrai que ça représentait vraiment un énorme stress et beaucoup de livrables à donner.
Oui, pour une petite structure associative comme la vôtre.
Et oui,
en fait,
on était tous les deux en bénévole pendant les 3 ans et on a eu la chance de pouvoir engager 2 petits jeunes pendant 3 ans. Et donc, on était tous les 4, une petite équipe, mais qui a beaucoup donné. Et c'était vraiment une grande richesse pour nous et surtout au niveau humain aussi.
Ouais. Eh bien, c'est bien entendu. Merci beaucoup à tous les deux.
Merci à vous.
Merci d'être venu. Donc, je rappelle le nom de votre association, Chemin de la Soie des Cévennes aux Alpes pour Haras. Et on va se quitter en musique avec un morceau qui est finalement un petit peu comme de la soie pour les oreilles. C'est Leonardo Marquez tout de suite sur Radio Bartas. On écoutait à l'instant le titre Ainda e Cedo, il est encore tôt, magnifique morceau du musicien brésilien Leonardo Marquez. Et on reste au Brésil sur Radio Bartas avec Cineco qui nous invite à découvrir le film brésilien Les Voyages de Teresa.
Parlons ciné
avec Cineco.
La rubrique cinéma de Cineco,
l'association de cinéma itinérant en Cévennes, sur Radio Bartas.
Et aujourd'hui, c'est toi Mireille qui est avec nous pour cette chronique Parlons Ciné avec Cineco. Bonjour.
Bonjour Radio Bartas, bonjour Raphaël et bonjour à toutes et à tous.
Alors Mireille, aujourd'hui, tu nous parles du film Les Voyages de Teresa.
Oui. Alors, film brésilien, donc on va voyager. D'ailleurs, ça s'appelle Les Voyages de Teresa, on va beaucoup voyager. Film qu'on a choisi dans un festival que j'avais repéré dans un festival il y a quelques mois et qu'on est très très fiers de programmer à Cineco. Voilà. Je vous explique un petit peu les titres rapidement. Il a 3 titres. Il a un titre portugais, enfin brésilien, Último Azul, ça veut dire le dernier bleu. Il a un titre en France, en anglais, qui est The Blue Trail, qui est la trace bleue. Retenez ce titre, c'est important pour la suite. Et puis en France, on a choisi, la distribution a choisi Les Voyages de Teresa, qui effectivement nous fait voyager. Il a gagné l'Ours d'argent à la Berlinade, donc à Berlin, au Festival de Berlin, et il est quand même distribué dans beaucoup de cinémas, de festivals, etc. Voilà.
Et donc, c'est un film qui est assez particulier dans son style, parce qu'en fait, il y a différents genres qui cohabitent à l'intérieur de ce même film.
Tout à fait. Alors, le réalisateur n'est pas très connu, il s'appelle Gabriel Mascaro. Je vous raconte quand même en trois mots rapides l'histoire. L'histoire, c'est une femme, une vieille femme, j'insiste sur vieille, une vieille femme, Teresa, qui a vécu toute sa vie dans une petite ville industrielle d'Amazonie. Et puis un jour, elle reçoit l'ordre officiel du gouvernement de s'installer dans une colonne isolée pour personnes âgées, comme toutes les personnes âgées, elle n'est pas la seule, parce qu'on décide de les envoyer loin pour qu'elles profitent de leurs dernières années. Teresa est cette femme qui refuse de partir, de subir ce destin, et qui va décider donc de partir à l'aventure sur un bateau. Et là, j'ai été scotchée par déjà ce caractère, cette révolte, cette femme. Et effectivement, je vais vous donner quelques clés pour comprendre que ce film est pluriel, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs genres. Déjà, le titre français, mais c'est aussi la réalité de l'histoire, on est dans une femme qui va partir sur des bateaux, pas un bateau, des bateaux d'ailleurs. Alors, on pourrait dire que c'est un boat movie. Boat movie, ça fait référence à road movie, qui est en général des aventuriers qui partent en voiture, etc., en train, sur la route plutôt, aux États-Unis très souvent. Donc là, c'est un boat movie. Donc, on va voir dans ce film le fleuve Amazon dans toute sa splendeur. Et je fais une petite parenthèse ou une grosse parenthèse, c'est que là, on a une photo du fleuve qui est sublime. Moi, je ne suis jamais en Amazonie et j'aimerais vraiment y aller depuis que j'ai vu ce film. Et c'est vrai qu'on ne parle pas assez des directeurs photos. Celui-là, il a choisi, avec le réalisateur bien sûr, des couleurs très marquées, une identité vraiment particulière du film, certaines fois des couleurs irréalistes. Et elles sont utilisées en fin de compte pour nous dire que les couleurs parlent autant que les acteurs, elles sont aussi importantes que les acteurs. Donc déjà, il y a ça. Et puis, vous allez vérifier ce que je vous dis, hein. Teresa est filmée souvent en gros plan. Donc ça, c'est important aussi par rapport à ce que je veux dire par la suite, c'est qu'on va montrer son âge et on va montrer ses rides. Et voilà. Mais on est quand même avalé par la beauté des paysages. J'ai vraiment personnellement, moi, trouvé la photo des paysages absolument sublime. Deuxième petit genre que l'on peut aussi voir dans ce film, c'est la science-fiction. Parce qu'a priori, on n'a pas encore dans nos sociétés séquestré les vieux. Je vais du vieux volontairement. Donc là, on est dans de la science-fiction, de la dystopie, des mondes futurs quand même sombres. Et que fait Teresa? Elle va fuir, en fin de compte, l'autoritarisme d'un régime. Et on va se mettre en place une traque. Et pour pas qu'elle soit attrapée, elle s'enfuit. Donc on est dans cette dystopie sombre, bien sûr, où elle rencontre quand même des gens qui vont l'aider. Donc ça, je ne vous en dis pas plus. Et puis aussi, bien sûr, ça fait référence au Brésil et à ses mécanismes dictatoriaux. C'est-à-dire que le Brésil est quand même connu pour avoir eu des dictatures, des juntes militaires. Et puis rappelons-nous quand même de Jair Bolsonaro, qui a bien discriminé les femmes, les noirs et les homosexuels. Ça, c'est une parenthèse, mais c'est intéressant de relire l'histoire de Brésil par rapport à ce film. Troisième aussi petite clé, ça nous raconte une histoire merveilleuse. Pourquoi merveilleuse? Parce que, je ne sais pas si vous vous rappelez du film Le labyrinthe de Pan de Guillermo del Toro, c'est l'histoire d'une jeune fille qui est dans une grande maison pendant le franquisme, mais qui à côté découvre un royaume enchanté. Et donc il y a les deux dans ce film de Les Voyages de Teresa. Il y a en même temps la personne qui est dans un régime autoritaire, mais en même temps qui va faire des rencontres du merveilleux. Et cette rencontre du merveilleux va se faire à travers un escargot. Un escargot qui est un personnage du film qui a une bave bleue. Alors, selon la légende au Brésil et dans l'Amérique latine, l'escargot à bave bleue, si on met des gouttes de cette bave bleue dans ses yeux, ça nous permet d'ouvrir de nouvelles voies et d'entrevoir l'avenir. Et donc voilà, c'est aussi une clé. Est-ce que Teresa va mettre de la bave bleue dans ses yeux? Je vous laisse regarder le film.
Et donc ça résonne avec le titre en anglais que tu nous as donné au début, qui est La Trace Bleue, donc celle de l'escargot,
voilà.
On imagine.
Tout à fait, voilà, tout à fait. Alors, on n'a pas le temps, mais je pense que Raphaël mettra, j'espère, si elle le veut bien, mettra en lien aussi, en littérature latino-américaine, il y a quand même Gabriel Garcia Marquez qui est un chantre de ce réalisme merveilleux. Et il a fait une toute petite nouvelle qui s'appelle « L'incroyable et triste histoire d'Erendira et de sa grand-mère diabolique ». Et c'est justement aussi une histoire de réalisme merveilleux. En même temps, c'est sordide, mais en même temps, c'est merveilleux. Donc, c'est pour ça que la littérature nous aide à avoir aussi des clés dans ce, je trouve, avec ce film. On comprend bien les intentions.
Et alors, Mireille, tu as insisté tout à l'heure sur le fait que Teresa est une personne âgée, une vieille femme. Et c'est rare de voir des vieilles femmes au cinéma.
Et c'est ce qu'il a voulu faire. Déjà, il a choisi une actrice qui s'appelle Denise Weinberg, qui est une actrice du théâtre. Et ce n'est pas, entre guillemets, attention à ce que je dis, ce n'est pas une bimbo, parce qu'au Brésil, on a ce qu'on appelle les telenovelas, en Amérique latine aussi d'ailleurs, et beaucoup d'actrices de sa génération, et encore maintenant, ont souvent recours à la chirurgie esthétique. Denise Weinberg, non, c'est une femme qui vient du théâtre et qui a toujours dit que ses rides étaient son mode d'expression. Et c'est pour ça qu'elle peut aussi jouer des personnages de son âge. Si elle est botoxée, elle ne pourra pas jouer des personnages de son âge. Donc c'était intéressant aussi de voir les intentions du réalisateur par rapport à ça. Il voulait parler de la personne âgée, il voulait parler de ce que aussi cette personne âgée peut faire. Et ce n'est pas, là, bien sûr, qu'il y a une fin, tout est fin, mais de sa dignité, de ses envies, de ses désirs. Et je fais toujours aussi des références à d'autres films. Alors, toi, tu es bien trop jeune, Raphaël, mais il y a quelques années, et j'étais moi très très jeune, il y a eu un film en France qui s'appelle La vieille dame indigne, de René Alliot, celui qui a fait les Camisards d'ailleurs. Et là, c'était une vieille dame qui devenait veuve et qui décidait de partir sur les routes. Alors là, c'est sur les routes, avec sa vieille deux chevaux, il me semble que c'était une deux chevaux, une quatre ailes. J'ai un doute sur la deux chevaux ou la quatre ailes. Mais voilà, donc c'était aussi, c'est des films qui existent, mais il n'y en a pas tant que ça.
Eh bien, merci beaucoup, Mireille, pour cette petite revue, donc les voyages de Teresa.
Ouais, magnifique. Moi, je l'ai trouvé vraiment captivant, je l'ai trouvé subtil, je l'ai trouvé audacieux. Ben, voilà, j'ai eu un coup de cœur vraiment pour ce film.
Et tu voulais aussi nous annoncer un événement qui arrive bientôt, que vous organisez à Cinéco, ce sont les Nuits du court-métrage.
Voilà, alors on a 5 communes qui vont participer à ces nuits du court-métrage. On commence avec Concoul dans le Gard, là c'est un peu loin de Florac, je le sais, mais ça commence à Concoul-Ponteil, c'est Concoul-Ponteil, c'est une ancienne gare, et ça sera le 4 juillet. On mettra toutes les dates, je suppose, déjà sur le site de Cinéco, mais aussi sur Radio Bartas. Ça se passe dans une vieille gare, une ancienne gare qui a été rachetée par Didier, et il nous prête sa gare, et il nous prête surtout un mur magnifique pour pouvoir projeter. Après, il y aura le 22 juillet à Vialas, Hispaniac le 24 juillet, Saint-Germain-de-Calvert le 25 juillet et Mervès le 28 juillet. Donc l'idée, c'est de montrer une nuit de court-métrage avec des sessions, avec des food trucks et aussi avec un partenaire dont j'ai déjà parlé, c'est CTA, Céventaire d'accueil. Donc je trouve c'est important qu'on ait justement avec Cinéco des partenaires pour montrer que le cinéma... C'est aussi, c'est pas que de l'image, c'est aussi du social, c'est aussi du lien, c'est aussi des échanges.
Eh ben merci beaucoup, je remettrai toutes les infos concernant ces nuits du court-métrage sur la page de Radio Bartas et bien sûr tout est accessible sur www.cineco.org. Merci Mireille.
Merci à tous et toutes.
À très bientôt. Et quelques dates aussi pour le film Les Voyages de Teresa, qui sera donc à découvrir sur les écrans Cévenol à Vialas le 16 juin à 20h30, à Piedebornes dimanche 21 juin à 16h, à Florac ce sera le 1er juillet à 21h, Hispaniac le 3 juillet 21h, Saint-Martin-de-Lensuscle le 4 juillet 21h aussi, et à Saint-Enimy en plein air, ce sera le dimanche 5 juillet à 21h. Voilà, toutes les horaires sont à retrouver sur le site de Cinéco. Également. C'est la fin de cette émission. Merci à toutes et à tous pour votre écoute. Je vous retrouve demain, même heure. Rendez-vous à midi et des poussières précises. Salut.
Sait-on ce qui se cache derrière cette petite phrase que nous prononçons de nombreuses fois dans une journée ? Quelle heure est-il ?
Au quatrième top. Il sera exactement
midi et des poussières. Midi et des poussières.
Un rendez-vous presque quotidien sur Radio Bartas.
Des invités, des reportages, des chroniques, de la musique. Une heure d'émission pour raconter ce qu'il se passe ici et un peu plus loin.
Midi et des poussières.
En réalité, pour être tout à fait précis, actuellement, c'est le temps atomique, moins 10 secondes, plus une heure.